Europe 1, en balade avec Christophe. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Christophe que nous partons en balade aujourd'hui. Il a écrit et composé le premier slow de l'été, Aline, en 1965. Il y a eu ensuite d'autres tubes comme Les Mots Bleus ou Les Paradis Perdus. Mais c'est seulement depuis le début des années 2000 qu'on lui reconnaît du génie et que tout le monde le place à la pointe de l'électropop française. Aujourd'hui, il sort un album de duo avec Étienne Dao, Sébastien Tellier, Camille, Eddy Mitchell, Raphaël ou Yamina Hamdam, dans lequel il a complètement réinventé musicalement certains de ses plus grands succès. Le second sortira à la rentrée avec Laetitia Casta, Julien Doré ou Juliette Armanet. Christophe nous a donné rendez-vous chez lui, boulevard de Montparnasse.
Europe 1, 11h30, en balade avec Christophe. Frédéric Taddeï.
Bonjour Christophe, merci de nous recevoir chez vous, surtout à cette heure-ci, normalement vous dormez.
Je me suis quand même arrangé pour me coucher quand même à 6h du mat.
Oui, beaucoup plus tôt
raisonnable,
d'habitude.
Oui, 6h, ouais. Voilà, donc
ouais.
Voilà, j'étais prêt pour vous, quoi.
Alors c'est un jour un peu spécial puisqu'il y a des manifestations de cheminots notamment et que tout le quartier est bouclé. Hein. Je suis arrivé à pied, en nage.
Ah oui.
Oui, il n'y a plus une voiture. On est dans un quartier.
Puis moi j'ai bloqué par la police. J'ai plus mon vélo en bas parce qu'on me l'a volé.
Ah bon ?
Donc je peux pas vous emmener sur le porte-bagages pour faire une petite visite.
Bon, on va voir.
On va essayer de trouver un.
Enfin déjà, on est là, on est dans votre caverne d'Ali Baba avec toutes vos machines, vos synthétiseurs, vos jukebox, votre flipper, vos postes de radio, toujours collectionneur.
Disons que je suis toujours à l'affût là, d'un objet pour lequel je vais avoir le coup de foudre. Alors après, c'est plus les voitures, puisque j'ai plus de permis de conduire depuis 2000. Et la justice, bon, bah, quand on voit toutes les voitures sans permis, tout ça, le bordel que c'est dans les rues, ça te donne envie de rigoler. Quoi, surtout, bon, s'il y a tout que je sais faire dans ma vie,
c'est conduire.
C'est pas de la musique, mais au moins, c'est comment piloter, quoi. Alors, bon, voilà, bon, alors, comme je suis contre le permis à point, je leur passe pas, et je me disais, bon, j'avais une petite combine à un moment, mais malheureusement, le mec s'est fait gauler, quoi, d'un con qui a parlé, quoi.
Bon, c'est fini, donc plus de voiture.
Fini.
Et vous avez tout vendu, il y en avait des magnifiques.
Twizy, comment 49.
Ah oui.
Ça ne dépasse pas le 50, mais dans les grandes descentes, du côté de Ramatuel, dans les virages, on a l'impression qu'on est avec un kart, c'est pas mal.
Vous étiez un très très bon pilote, vous aviez des voitures magnifiques, vous les avez toutes vendues, les Ferrari, les Lamborghini.
Bah oui, je veux dire, j'ai eu la chance, effectivement. J'ai eu vraiment une chance, puisque j'étais fou des voitures, comme tous les mômes, hein, comme tous les garçons.
Toute cette génération-là.
Ouais, puis ouais, je suppose que tous les garçons. Hein. J'ai commencé par la Dinky Toy.
Chanteurs, aujourd'hui, ils n'ont plus de voitures, ils n'ont même pas le permis.
Ah, je ne vois pas, moi, je reste là, moi, je ne vois pas. Je n'ai pas la télé, je ne vois rien, moi. Je suis là, voilà. Donc, ouais, à l'époque, j'aimais les voitures, quoi. Et puis, j'ai eu la chance de faire Aline les marionnettes. Et au lieu de mettre de côté comme un mec raisonnable. J'ai tout flambé dans les voitures, quoi.
Ouais.
Ce qu'il faut que j'aurai du masque, quelques postes de radio, quelques flippers.
Mais c'est drôle, je me demande qu'est-ce qu'on collectionnera bientôt, parce que les postes de radio, il n'y en a plus. On écoute ça sur son ordinateur. Les jukebox, il n'y en a plus non plus. On écoute ça sur son téléphone.
Et peut-être que les jeunes qui ont 18-20 ans, aujourd'hui, collectionneront peut-être les premiers portables, les trucs comme ça, je ne sais pas.
Ouais.
Tu sais, moi, j'ai gardé le mien, le vieux Nokia, là, comment...
Là, devant nous, il y a un très très beau jukebox.
78 tours, ouais.
Américain.
C'est que bien que du blues. Que
ouais,
du blues dedans.
Que du blues dedans.
Ouais, ouais.
C'était 25 cents à l'époque.
Ouais.
Il fallait utiliser uniquement des pièces de 5 cents. Vous voulez toujours vous faire enterrer
5 cents, 10 cents et 25 cents.
Vous voulez toujours vous faire enterrer dans un jukebox?
Ah, ça, c'était il y a longtemps. Non, maintenant, je pensais plutôt à la cave commune.
Ah bon?
Comme on dit, la cave, ouais.
Non, la fosse commune.
Non, mais la cave, j'aime bien le mot cave. J'ai toujours. J'écris beaucoup. Parce que je suis toujours en création, puisque au quotidien, c'est mon métier, quoi, c'est ma vie aussi, mon plaisir. Et j'ai écrit un truc sur la cape voûtée, un truc qui m'a inspiré chez une amie qui fait de la peinture. Et quand j'étais dans cette cave, je me suis dit, il faudrait que je crée un parfum comme ça, il faudrait que je demande à Lutens qui crée ce parfum de cave, tu sais, d'humidité dans la cave.
Oui, pourtant, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Vous êtes très sensible aux odeurs, y compris à des odeurs que les autres trouvent désagréables, et vous, ça vous enchante.
Moi, les odeurs, c'est important. Je sais que j'ai été très, très, très un malade dans les années... j'avais 42 ans, je me souviens. J'avais fait un choc à l'aspirine, un dimanche. Quand j'étais en train de dealer avec des Belges, des radios, et qui sont là, voilà, donc... Voilà. Et donc, il était 17h, Véronique, ma compagne, nous avait fait, comme d'habitude, une belle brioche avec des bons croissants, un bon thé, un chocolat, enfin... Et puis, j'ai eu tout un coup, comment, mal à la tête, j'ai pris aspirine et j'ai étouffé, quoi. Heureusement, pour moi, ou malheureusement, je ne sais pas, que l'infirmière était dans la cour. Elle m'a fait une piqûre de Kenoch entre tard et je suis revenu à la vie. Donc, voilà, j'avais 42 ans. Et j'ai pris beaucoup de cortisone à ce moment-là. Et donc, j'ai été, pendant 3-4 ans, je n'avais plus de goût ni d'odorat. Alors, je mettais du 34 en jean, je ne baisais plus. Et donc, ça me rendait dingue, bien sûr. Tout à coup, un jour, j'arrive dans ma cuisine, je suis devant mon frigo, il y avait des yaourts au chocolat que je ne sentais pas, bien sûr, puisque je ne goûtais pas, j'ouvre le frigidaire, et tout à coup, je me mets à sentir le frigidaire. Et là, j'ai pris un yaourt au chocolat et une petite cuillère. Et là, j'ai commencé. C'était...
Le meilleur de votre vie ?
Le meilleur yaourt au chocolat de ma vie. Hein, ouais. Ah oui. Et voilà. Et depuis...
Et depuis, ça va ?
Effectivement, ça va. Quoi.
On se retrouve dans un instant avec Christophe au milieu de ce grand salon sur un boulevard de Montparnasse entièrement vidé par la police.
Oui, mais si, c'est comment c'est normal, ça fait partie de,
oui,
de la vie.
C'est la vie du quartier.
Ouais, ouais.
À tout de suite.
Frédéric Taddeï, en balade avec Christophe sur Europe 1.
C'est chez Christophe, dans le 14e arrondissement, qu'on retrouve Frédéric Taddeï en balade ce dimanche.
Nous sommes donc chez Christophe, dans un bel immeuble de Montparnasse. Vous savez que c'est ici que se tenait le cabaret club Le Jockey. C'est ici que se produisait Kiki de Montparnasse. Et puis on a rasé le Jockey. Ils sont partis de l'autre côté de l'avenue. Et puis on a construit ce bel immeuble blanc façon paquebot pour Elena Rubinstein à l'époque. Là où vous habitez.
Ouais, c'était son usine. Ouais.
C'était son
usine.
Il
y a beaucoup d'Américains qui viennent se mettre devant, qui font des photos souvent.
Ah, c'est pas pour vous en fait. Non,
c'est pour vous. Moi, je connais pas les Américains.
C'est pour l'architecture. Et pas loin d'ici,
oui.
Régine avait le New Jimmy.
Oui.
C'est là qu'elle a créé le Twist. Est-ce que vous y étiez ?
Bien sûr. J'ai dormi chez Régine.
Et le Twist, c'était la première danse qu'on dansait seule. C'était une sacrée révolution.
Non, moi, je n'en sais pas le Twist. Ça ne m'excitait pas. Non, moi, j'en sais que les slows.
Ah oui ?
Ouais.
Mais vous avez fait le premier slow de l'été, hein, Aline. Ça a été le premier slow de l'été en 65.
Oui, mais j'en ai connu d'autres avant qui n'étaient pas dégueux, quoi. Hein.
Oui, mais pas les Français.
Oui, pas les Français, des trucs, des fils spectoriens, des trucs comme ça.
C'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes le seul de la génération yéyé à avoir acquis une crédibilité pop. D'être adoré aujourd'hui à ce point par les musiciens, par toute la scène électropop française, tous les jeunes, c'était inimaginable à l'époque pour un chanteur yéyé.
Je ne me rends pas compte parce qu'en fait, moi, ce qui me plaît, depuis les années... 70, bon, j'ai commencé en 60, mon premier disque chez Govdro. En 65, j'ai fait Aline. Ça a été ma première observation et leçon par rapport à ce que c'était que un studio, un orchestre, un arrangeur, un preneur de son. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce Roger Roche, qui était l'ingé son de Philips, boulevard Blanqui, pas loin là, et qui était un mec extraordinaire. Et on a travaillé pendant 5 ans ensemble et grâce à lui, je voulais plus vivre ce truc formaté. Ça me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. J'ai eu la chance d'avoir un truc qui marchait en Italie, Estate de Sensate. Je suis parti faire une tournée d'un an en Italie. Et puis quand je suis revenu, c'était en 69, je me suis dit bon, c'est pas ça que je veux. Donc j'avais même des Revox à l'époque. J'avais du truc pour faire du son. Je faisais de la percussion, des petits synthés comme ça. Et puis sont arrivés les vrais synthés en 71. Et à partir de là, j'ai évolué par plaisir, comme si c'était Noël, dans les technologies qui arrivaient doucement à l'époque. Parce que,
quand vous commencez, il y avait quoi, 2-3 instruments ? On avait besoin de 2-3 instruments pour faire un disque.
Quand j'ai commencé, je jouais de la guitare. En fait, je n'ai jamais été un bon instrumentiste, mais j'étais un touche-à-tout. Quoi. J'étais un autodidacte touche-à-tout. Et surtout, amoureux du son. Quand j'avais 10 ans, dans le métro, j'adorais hurler pour entendre la réverbération. Voilà, c'est pour ça que quand j'avais 14-15 ans, j'étais beaucoup à Strasbourg-Saint-Denis, chez Fratelli Crozio, marchand d'accordéon, et en haut, ils faisaient venir des chambres d'écho.
Ah, les chambres d'écho italiennes.
Italiennes, Meazzi, Samprini.
Et là, les meilleurs à l'époque.
Et là, tout à coup, je me suis dit, ah, on peut faire du son avec sa voix. Je n'ai pas dit chanter, j'ai dit on peut faire quelque chose avec ça.
Oui, vous ne voyez pas comme un chanteur, vous voyez comme un musicien qui sert de sa voix comme un instrument.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais.
Mais c'est drôle parce que dans les années 70, avec ses premiers synthétiseurs, vous allez faire d'énormes tubes. Jean-Michel Jarre écrira les paroles, vous ferez la musique.
Ouais.
Ce sera les mots bleus, les paradis perdus. Mais la vraie crédibilité pop, le moment où on vous reconnaît comme un grand sorcier de la pop, c'est le début des années 2000. C'est avec cet album, Comme si la terre penchait, où là, tout à coup, tout le métier est à genoux.
Ouais, je sais que j'ai toujours des bons retours. Je vais pas dire que je sais pas. Bien sûr que je sais. Et bien sûr, c'est quelque chose qui, comment, même le public, quand tu vois en concert, public de ma génération, mais qui est un public savant et qui est passionné de musique et non pas, tu vois, de nostalgie. Et que tu as des jeunes de 20, même de 15 des fois, tu vois, qui sont là, alors qu'ils n'ont pas connu Ali ni les Barguenettes.
Oui, voilà.
C'est inspirant. Pour la suite, tu vois, quand je travaille, en fait, moi, je suis comment j'ai trouvé de. C'est comme ça, des choses qui me viennent dans ma tête. Maintenant, je ne sais plus ce que je disais avant. Maintenant, je dis que, en fait, tout ça sont mes palettes sonores et que je crée des tableaux. Et qu'un jour, il y a comment suffisamment de toiles, c'est-à-dire ça fait un album, et pour faire une exposition, m'exposer dans les FNAC. Alors là, je signe un contrat avec une maison de disques qui va exposer mes trucs. Et
mais c'est beaucoup de travail, c'est 15 heures par jour sur les machines à peu près.
C'est pas beaucoup de travail, c'est comment j'ai la chance de faire de quelque chose qui est comme de l'amour.
Vos expérimentations n'ont pas toujours été très bien comprises. Il y a eu des disques que tout le monde trouve magnifiques aujourd'hui, comme le Beau Bizarre ou Bévilacqua.
Ouais, ouais.
À l'époque, n'ont eu aucun succès. Est-ce qu'il vous est arrivé, parce que souvent, vous mettiez longtemps pour faire un album. Ça prenait encore récemment, vous avez mis 7 ans.
Non, la fois j'ai mis 7 ans, c'est juste parce que j'avais un problème avec Francis Dreyfus, qui était mon producteur, et qui ne voulait pas me lâcher. Comme je ne me suis jamais laissé faire, ça ne m'a pas empêché de faire de la musique enfermée dans mon studio, avec ma salle de cinéma, mes potes qui venaient, tout ça. Ça me suffisait. Moi, de toute façon, je m'en foutais de comment être dans le métier. Ça. J'en avais rien à foutre, j'avais autre chose à faire. J'avais les moyens de vivre. Voilà.
Oui, vous n'êtes jamais retrouvé sans un rond
Si, oh là là.
Si, ça a dû arriver quand même.
Ouais, beaucoup plus que...
qu'on croit.
Ouais, mais bon, ça c'est comment. C'est pas grave. C'est... Quand j'étais jeune, j'ai traversé toute la France, toute l'Espagne en stop. Je dormais n'importe où et j'aimais cette vie-là. Donc, ça m'a quand même permis d'être à l'aise à peu près dans toutes les...
Même dans la dèche.
Bah, même dans la dèche. Moi, je me souviens qu'en 70, je fumais des Gauloises. À l'époque, c'était la mère de Véronique. Lucie avait 12 mois. Et c'est sa mère qui fait l'argent pour que je m'achète des clopes. Voilà. C'est pour ça que ma vie, elle est comme intime. Personne ne la connaît. Elle regarde que moi. Et voilà, c'est tout. Quoi.
Frédéric Taddeï, en balade avec Christophe sur Europe 1.
Frédéric Taddeï est en balade aujourd'hui avec Christophe, qui a une actualité chargée en ce moment. Et c'est dans l'appartement du chanteur, justement, qu'on les rejoint pour en parler.
Nous sommes chez Christophe, qui vient de sortir un nouvel album, un album de duo. Ça ne vous ressemble pas de faire des duos? C'est plutôt pour Sinatra, pour Céline Dion, ça?
C'est vrai que Pascal Nègre, directeur de Universal à l'époque, en 2010, après mon concert à l'Olympia, m'a convoqué dans son bureau pour me dire, voilà, on va signer pour un album de duo. Et j'ai dit, moi, je ne fais pas d'album de duo parce que je déteste ça. J'ai horreur de ça, les Sinatra, les machins, les trucs. On s'est quittés comme on travaillait, il était très cool, moi aussi. Donc, il m'a rendu mon contrat et j'étais sans maison de disque jusqu'en 2015 où, en 3 ans, je crée cet album
Vestiges du chaos,
tranquillement, comme ça, il commence à prendre forme. Donc, je commence à avoir des gens qui viennent, Universal vient. Voilà, il me propose un très bon contrat, un album donc intime, un original et un album de duo. Moi, je suis un joueur, je veux dire, comment, je signe un contrat, ça n'a aucune valeur pour moi. Je signe le contrat, bien sûr, en disant, voilà, ça me plaît déjà, les deux premiers, album de duo, comment, on verra bien, si je veux me tirer, je me tirerai de toute façon. Et tout à coup, c'est devenu une expérience parce que pendant que je faisais les autres trucs, j'y pensais. et d'aller revisiter, d'enlever complètement la robe de l'époque d'une chanson et de la redonner
et de la rhabiller,
à Laetitia Casta,
ouais.
ou à Jeanne Hadet, ou à Juliette Armanet, ou à tous ces mecs, tous ces gens que j'ai moi-même été chercher, puisque moi, je ne sais pas du tout comment maison de disque, je suis à l'écart.
Vous n'avez pas de directeur artistique?
Non, j'ai pas de manager.
Non,
je fais
tout seul.
J'ai fait tout, j'ai ma petite entreprise. Et donc voilà, je remercie Universal d'avoir fait ces albums de duo parce que j'ai fait deux rencontres très importantes pour mon avenir.
Ah oui?
Ouais. Son Lux. Ouais. Yann Chang, le petit batteur, qui fera partie de comment? De...
Après, avec qui vous reprenez les Beaux Bleus?
Ouais.
Avec un arrangement donc, totalement différent.
Oui, je travaille très liés ensemble. La nuit on s'écrit et ces mecs sont. C'est extraordinaire, ces mecs passionnés qui créent, quoi. J'ai mis un an et demi pour le faire. Normalement, un album de duo, ça se fait en deux mois, quoi, pour un mec formaté. Voilà, moi, j'ai quand même mis un an et demi, mais de plaisir d'être en studio avec Laetitia Casta, comment, de tout à coup entendre une voix comme ça, qui prend des nuances, qui peut jouer dans l'aigu, qui peut dans le souffle, ça, c'est merveilleux.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est que une chanson comme Succès Fou, par exemple, vous l'avez faite avec deux rappeurs.
Oui. Alors, c'est, en fait, pour Succès Fou, je voulais... comment s'appelle ce groupe
PNL.
PNL, ouais.
Le phénomène actuel.
Ouais, c'était PNL, mais ils étaient, je pense, en train de faire leur album. Et puis, peut-être, ça ne les intéressait pas. Et puis, comment, j'ai pas de... Je ne sais pas, tiens, ça tire. Et donc... je comprends, ça ne m'empêche pas d'acheter leur album. Et le dernier aussi.
Deux frères.
Parce que, le son m'intéresse, donc le son, je l'écoute partout où il y a des points, où on a des points de rencontre.
Il commence à y avoir des explosions autour de l'appartement.
Ouais, mais ça s'est commencé.
Oui, c'est le quartier.
Ouais, c'est le quartier. Ça. Et donc, une nuit, je vais un peu, comme je fais souvent, je vais sur YouTube parce que j'aime bien, quand je bouffe, il est 4h du mat, je me fais un petit truc où je commande un truc, j'ai faim, et je peux aller sur YouTube écouter ce que j'ai envie d'écouter. Ça peut être Chet Baker aussi, hein. Et là, je cherche vraiment du rap. Et je tombe sur Nevski et Vati, la chanson 2 minutes. Et là, quand je vois Nevski, je flash d'abord sur l'attitude du gars, sur le son et sur ses mots. Et je me dis, ce gars-là, ce que je vois là, c'est lui qui l'a fait, quoi. Et je ne suis pas gouré, donc je me démerde d'aller ce qu'il vient ici un jour. On parle de Succès Fou. Voilà, on écoute la chanson, ils disent c'est eux-mêmes qui ont fait toute l'orchestration dans leur coin. Moi, je fais juste chanteur dedans. Hein, parce que là, j'ai pas du tout revisité la robe, c'est eux, mais ça sert à ça, les rencontres. Et donc, j'apprends que Nevski est le fils, en fait, de Pat Lera, qui est un mec que j'avais dans les années 75. J'avais logé pendant 2 ans, c'était un très très bon copain, et que j'avais tenu dans mes bras à l'âge de 3 mois. Comme
c'est drôle.
Et l'autre, Vati, ce que je ne savais pas, parce que c'est quand même un truc complètement dingue, son père était Rémi Bouet, le mec qui faisait mon merchandising dans certains concerts. Un truc de dingue, quoi. C'est fou, bah oui, parce que c'est quand même un don du hasard, ou le hasard est un don, je sais pas comment dire.
On va écouter Succès Fou, donc cette nouvelle version sur l'album Christophe, etc., avec ces deux retrouvailles. Donc.
Elle viendra à la tombée du jour et je mettrai mes gants blancs. C'est mon style différent de tous les autres. Et ça lui plaît et nous danserons. Cha cha cha. Avec les filles, j'ai un succès fou. Le chat.
C'était Succès Fou, interprété par Christophe, accompagné de Nuski et Vati, deux rappeurs donc, qu'il a retrouvés par hasard.
Jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï est en balade avec Christophe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la musique est partout dans l'appartement du chanteur.
Nous sommes toujours chez Christophe, on va bientôt sortir, hein. On va profiter du fait que le quartier est rendu désert par la police, qu'il a entièrement bloqué à cause des manifestations. On est toujours au milieu des synthétiseurs, des machines, des micros, des casques, des jukebox. Votre premier groupe, Christophe, vous aviez 16 ans, c'était Danny Baby et les Hooligans.
J'étais un peu plus jeune. Hein.
Mais pourquoi Danny Baby ? Vous étiez si petit que ça ?
Non, parce que je m'appelais Daniel Baby Lacroix. Et à l'école, on m'appelait Baby, Baby, Baby Caca, tout ça. Donc, un jour, il y avait, je ne sais plus, Danny, je ne sais pas quoi, le mec qui vendait des poissons, là, je ne sais plus comment il s'appelait.
Oui, qui était un chanteur yéyé, oui.
Oui, ouais, comme un groupe, le chanteur d'un groupe.
Danny les Pirates, non ? Quelque chose comme ça.
Danny Logan les Pirates.
Bon. Voilà.
Moi, j'ai pris Danny Baby, comme ça, ça m'a traversé, j'ai dit, c'est bon, on y va, Danny Baby, les Hooligans, bon...
Oui, on n'en parlait pas encore tellement à l'époque, c'était pas les
ouais.
du foot hein, auxquels vous faisiez allusion à ce moment-là.
Non, c'était la simple attitude, quoi. C'était toujours une question d'attitude. Mais c'était 14 ans que j'ai commencé, 14 ans.
14 ans.
Parce qu'après, Danny Baby, les Hooligans, j'ai fait les Spectres.
À l'époque, vous rencontrez Johnny Hallyday, Eddie Mitchell qui figure sur ce nouvel album.
Non, vous les
rencontrerez plus tard.
Je rencontre ni Eddie, ni Johnny. Je rencontre Moustique, Hector, des mecs, les mecs assez barrés quoi, de la nuit. Je rencontre même pas Dutron.
On écoutait Succès Fou tout à l'heure, qui parle de votre succès auprès des filles. Vous avez eu tant de succès que ça auprès des femmes ?
Je n'ai pas eu à me plaindre. J'y pense, parfois je suis très étonné.
Encore aujourd'hui.
Ouais. Hein. J'étais assez étonné des cadeaux de la vie, quoi. Parce que c'est vrai que ce qui m'a toujours quand même inspiré, que j'ai, au fond, c'est quand même comment la femme, quoi. Inspiré par la mode, tout ce qui tourne autour de la femme. C'est pour ça que j'ai aimé comment aller dans les défilés. Voilà, quoi. Mais d'ailleurs, quand j'avais 13-14 ans, j'étais en pension, je dessinais et des voitures et des femmes.
Si mes oreilles sont longues, c'est parce que... Vous avez refusé le rôle de Jean-Hugues Anglade dans 37-2 le matin, le film de Benex avec Béatrice Dalle, pourquoi ?
Parce que j'étais un hyper intimidé. Béatrice Dalle, je me disais pas, parce que je ne pourrais pas, quoi. Non, parce que je suis timide quand même.
Ouais.
Ça dépend où. Ouais.
Bon, je l'ai dit, vous n'êtes pas acteur non plus. Hein.
Ah non, c'est ça, je ne suis pas acteur, c'est pour ça que j'en faisais beaucoup, beaucoup de films. Non, puis moi j'ai toujours la passion de comment... Aujourd'hui, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Tous les jours, il y a des choix à faire par rapport à sa palette sonore.
Vous n'êtes pas un touche-à-tout, vous êtes focus sur un truc depuis toujours.
Oui, chaque matière de comment dans cette vie-là. Dans l'autre vie, je ne sais pas, je verrai si comment.
On est sur une table de jeu, là. Vous avez beaucoup joué au poker.
Ouais.
Vous y jouez encore ?
Je fais quelques tournois de temps en temps, ouais. Mais beaucoup moins qu'avant, c'est vrai. Non, en ce moment, je n'y suis pas du tout et je n'ai pas envie de jouer mal parce que...
Oui, parce qu'on perd dans ces cas-là. Hein. Au poker, il y a très peu de hasard.
Oui, hein, mais moi, je n'ai jamais joué gros au poker. J'ai tout joué pour... pour essayer de gagner même un tournoi, quelque chose comme ça. J'en ai gagné des tournois. Mais j'ai donc appris que pour gagner un tournoi, même international, tout était possible, à condition d'avoir des bases, mais qu'il fallait avoir une part de chance
une partie de la partie. Mais...
Pas une partie de la partie, parce que c'est sur longtemps, hein, un tournoi.
Mais
c'est
vous avez l'impression jours. Que quelqu'un qui joue mieux que vous, il vous battra toujours, même s'il a de moins bonnes cartes ?
Je pense ça. Bien sûr, je pense ça. C'est sûr que Noah, s'il est en face de moi au tennis, il va toujours me battre. Ouais. Ça va être très dur pour moi de gagner. Bon. Mais au poker, je ne sais pas, au poker, il y a un jeu qui est le tête-à-tête, en fait. Et donc, on joue à deux. Je sais que j'ai un don pour le poker, c'est ce jeu en comment.
Quand on joue à deux.
À deux, ouais, c'est un jeu très rapide et très attaquant. Comme je suis plutôt attaquant. Attaquant. Ouais, mais il y a plein de paramètres là. Il faudrait des heures pour développer ça. Et puis s'il y a des professionnels qui nous écoutent, ils vont dire que comment qu'on est nul, tout ça. Donc on va pas se faire.
Ouais, puis de toute façon, je vais pas essayer de jouer avec vous. Vous allez me battre. Donc on va faire un tour dans le quartier.
On va essayer de trouver quelques joueurs.
Frédéric Taddeï en balade avec Christophe sur Europe 1.
C'est dans le célèbre quartier de Montparnasse que Frédéric Taddeï nous en apprend plus sur le chanteur Christophe qui a ses petites habitudes dans le 14e arrondissement.
Nous voilà sur le boulevard de Montparnasse, un boulevard de Montparnasse piétonnier, aucune voiture. La police a bouclé le quartier à cause des manifestations. C'est votre boulevard, Christophe. Ça fait longtemps que vous habitez ici ?
Depuis 2002.
Ah oui, depuis « Comme si la terre penchait ».
Ouais.
Votre album... magnifique,
après,
ouais. Bah, Léon Blum vivait pas très loin, au 126. Il y a Matisse qui habitait là, Zola, Romain Rolland.
Moi, c'est vrai, je m'assois là.
Sur ce banc-là.
Ouais, normalement, ouais.
Essayons-nous. C'est très spécial hein, quand il n'y a aucune voiture. Hein. C'est un côté étrange.
On a l'impression qu'on est au mois d'août. On a l'impression qu'on est...
Oui, il y a quand même quelques voitures au mois d'août aujourd'hui.
Ah ouais, aujourd'hui, ouais, c'est vrai, ça a changé. Mais avant, quand il y avait les vacances tout le mois d'août, moi, je restais à Paris, j'adorais ça, je kiffais.
Ah oui, on se souvient, il y avait toujours la photo de Paris, la place de la Concorde le 15 août, avec zéro voiture. C'était toujours
trop bien.
Le marronnier de la saison.
Comment ça va ?
Alors, il salue les passants, bien entendu. Hein. Il est dans son quartier.
On ne vit pas aux mêmes heures.
Qu'est-ce que vous faisiez en mai 68 ? C'était un peu pareil, hein. Il n'y avait pas de voiture non plus.
Mais
sur le boulevard du Montparnasse.
J'avais comment une copine qui s'appelait Zoé, qui était mannequin, qui faisait des photos à Rome, beaucoup, qui faisait des allers-retours. Et en fait, donc, je vivais à la nuit. Et j'habitais donc dans le 17e, dans une petite chambre de bonne, au 6e, dans sa chambre de bonne. Hein. Et je l'attendais, je faisais ça. Sinon, je m'arrêtais beaucoup du côté de la Contrescarpe, au restaurant. Et je sortais vers minuit, et les voitures flambaient.
Et là, les gilets jaunes, ça vous a inspiré quoi ?
Je ne peux pas dire que ça m'inspire, parce que, bon, je connais la... Bien sûr, ça va, je connais bien sûr le problème, parce que j'entends quand même des choses, puis même si on ne voulait pas entendre, on entendrait, parce que ça parle tellement. Moi, ce qui me gêne, c'est... Moi qui aime le silence, c'est la parlotte, quoi. T'as bien, je n'ai pas parlé devant un micro. Les gens, tu leur donnes le micro, ils vont te raconter le... Alors, ça parle beaucoup, ça parle. Et moi, ça me fatigue, parce que... D'abord, la politique, j'en ai jamais fait, et ça m'a jamais voté de ma vie, donc, hein, c'est bien... J'aime participer comment, à des choses, mais en solitaire, pour le sida, pour les trucs sur le cerveau, pour le téléthon, les enfants, tout ça. C'est quelque chose qui me touche. Et je suis plutôt, j'aimerais bien aussi voir comment tous ces gens, les autres qui viennent se greffer, tout ça, voir ce qu'ils donnent de temps en temps. J'aimerais bien voir ça. Mais bon, enfin, j'ai autre chose à foutre. Je sais ce que je vaux et puis comment basta. Voilà.
J'ai l'impression que quand je vous écoute chanter, vous avez changé de voix d'abord. Hein, vous n'avez plus la voix d'Aline.
Heureusement,
vous êtes parti vers les aigus, vous êtes envolé.
Quand j'ai commencé, j'étais un peu chanteur. Et après, je ne voulais pas être ce chanteur-là, je ne voulais pas être chanteur. Mais par contre, je voulais faire du son. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les chambres d'écho, les machins. Et en fait, à partir de 70, c'est moi qui ai toujours fait mon son. Quand je faisais des enregistrements des Monts Bleus, les Paradis Perdus, toutes ces choses-là, le son de ma boîte, hein, c'est moi. C'est avec mes Semprini, avec ma technique à moi, et je voulais pas qu'on y touche. Et c'est très bien comme ça, voilà.
Et j'ai l'impression que aussi le fait que vous êtes asthmatique, ça influence votre façon de chanter.
Ah ouais. Et pourtant, je fais 3 heures de scène... qui en fait me donne un souffle pas possible, quoi. C'est un truc. J'en parle des fois avec mon médecin que je vois une fois tous les de 3 mois, acupuncteur, parce que j'adore l'acupuncture, ça fait du bien, ça donne de l'énergie quand j'en ai besoin.
Et même votre façon de parler,
ah oui.
J'ai l'impression que c'est influencé par l'asthme. Ah. Et parfois de ne pas finir vos phrases, ou de partir ailleurs, ou de penser à autre chose en même temps que vous parlez.
Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai comment... Bon, là, je suis assez concentré, là.
Parce que là, c'est le lever du lit, là.
Oui, c'est ça, ça dépend. Si vous étiez venu m'interviewer à 2 du mat, c'est peut-être votre voix, ou non, quoi que vous êtes quand même... vous aimez la nuit aussi, quand même. Ouais. Mais un mec normal, des fois, je les vois culbuter, quoi. Je les vois, comment tomber sur la table, je fais, bah, faut que tu rentres, vieux. L'interview, c'est fini, tu vois. C'est comme ça, c'est... Non, mais c'est... Ce qui compte, c'est une belle différence. Moi, ce que j'aime... Pour en revenir au gilet jaune, parce que comment, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut que je dise, parce que je n'ai pas dit. Il faut quand même un SMIG de au moins 2000-2500 euros, parce que vu que la vie elle augmente pour acheter un appartement, pour s'acheter une maison, bon, moi ce n'est pas mon problème, j'en veux pas. Je ne veux pas être propriétaire, ça ne m'intéresse pas, moi, parce que je suis un fou. Mais les gens qui travaillent, les gens plus formatés, les gens, ça, voilà. Et ce que j'aime, avant tout, moi c'est la différence, quoi. J'aime la différence des autres. Et je m'adapte assez facilement. Après, bon, c'est vrai que ma vie, c'était une vie de flambeur, quoi.
Ah oui.
Donc, c'est une différence, une grande différence par rapport au mec un peu normal, qui vit le jour, qui mange à telle heure, telle heure. C'est une autre planète, mais j'arrive à ma... Au contraire, j'observe. Je suis altruiste. J'aime regarder les gens. Quand ils ont un regard, doux et intelligent et comment... Et sympathique, voilà.
Là, il y a quelques motos qui passent. Il y a une ou deux voitures qui sont arrivées à franchir les barrages. On va écouter Señorita sur le nouvel album que vous chantez avec Sébastien Tellier.
Ah, ouais,
Señorita, un grand succès des années 70.
Ah, ouais,
voilà à quoi ça ressemble maintenant, retripatouillé par Christophe.
Rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Meg a les cheveux blancs. Elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'en emporte le vent.
Señorita, dépêche-toi.
Des volants de rumba, Señorita, dépêche-toi.
c'était Senorita, chanté par Christophe et Sébastien Tellier. On se retrouve dans un instant sur le boulevard de Montparnasse.
Quand on se promène, on ne fait pas forcément attention au banc public. Eh bien, le chanteur Christophe, lui, si. Et c'est ce qu'on découvre dans la suite de sa balade avec Frédéric Taddeï.
Ces jours de manifestation, nous sommes sur le boulevard de Montparnasse avec Christophe. Il n'y a pas de voiture, les gens marchent.
Celui-là, c'est mon banc aussi. C'est
un autre banc, oui.
J'aime bien ce banc-là. En fait, j'aime bien les bancs.
Et pourquoi vous arrêtez tout le temps sur des bancs?
Bah, pour me reposer, pour...
Ah oui.
Pour en manger fait, ma crêpe, fromage, jambon, au sarrasin.
Eh oui, c'est le quartier des crêpiers. Des crêperies, pardon.
Oui. Les crêpiers, c'est bien. Hein.
Oui. Enfin, il fait beau. Il y a des amoureux sur les bancs. Ah, ici, c'est votre boulangerie, là?
Ouais. Bonjour.
Vous voulez vous acheter quoi?
Les chaussons pas, mais ils sont chauds. Non. Ah, non. Ben, prendre un petit cannelé, alors.
Un petit cannelé?
Un cannelé, oui.
Vous êtes très pâtisserier.
Ah, ouais. Je suis gourmand. Je suis pas pâtisserie, je suis salé, sucré. Enfin, je suis gourmand, pas très pâtisserie, j'aime tout.
Vous faites la cuisine?
Oh non.
Ben c'est bien maintenant. On peut se faire livrer à n'importe quelle heure maintenant. Ah c'était oui. Pas le cas avant.
Au revoir. Au revoir. Je mange casiat.
Oui, ça change tout pour quelqu'un comme vous.
Ah ouais.
Pardon, monsieur.
Le fait qu'aujourd'hui on peut faire ses courses sur internet à n'importe quelle heure, qu'on peut regarder n'importe quel film, écouter n'importe quelle musique, c'est... plus besoin de sortir, on peut tout faire de chez soi. Ça a changé votre vie, non?
Mais il a pris ma chaise.
Là, on est devant la pharmacie.
Ça a changé, là. Bonjour.
Bonjour.
On traverse.
Vous cherchez quoi?
Bah, je voulais traverser pour aller rue d'Assas.
Ah oui, oui. Ah bah, c'est une pharmacie formidable, on peut la traverser. Bah, on sort de l'autre côté.
Parce que là, je ne suis pas venu depuis que c'est refait. Ça fait bien 3 mois que je ne suis pas venu. Et là, on arrive rue d'Assas.
Ah oui.
Vous voyez? Attendez bien, il fait frais là.
C'est un bon truc quand on est suivi.
Regardez. Attention à la marche.
Voilà.
Et voilà.
Et nous voilà rue d'Assas.
Et voilà.
Et là, il y a toutes les voitures qui ne sont pas sur le boulevard. Elles sont toutes là. Il y a un gros embouteillage.
Là, y a un étage, là. C'est le bordel.
Là, on est devant des façades. Pas, on a l'impression que ce sont des vieux clubs qui n'ont pas ouvert depuis des lustres.
Truc dingue, je ne connaissais pas, là. Faudrait que j'y vienne.
Vous avez toujours peur de l'avion?
Ah oui.
C'est drôle pour quelqu'un qui a... conduit des voitures si rapides.
Ah, c'est rien à voir.
Ah oui?
Ah non.
C'est pas la vitesse qui vous fait peur, c'est l'altitude.
C'est pas moi qui conduis. C'est ça qui me fait peur. Je pilote pas. Par contre, j'ai une admiration terrible pour les pilotes.
Vous avez eu des accidents en voiture?
Jamais.
Jamais?
Aucun accident.
Donc pourquoi ils vous ont retiré votre permis?
Avec cette vitesse, 3 excès.
Ah oui.
En 2000.
Vous leur avez jamais pardonné ça, hein?
Si, parce que ça devenait trop. Après, quand j'ai vu que la nuit, on ne pouvait pas rouler, qu'il y avait des radars partout, le plaisir, c'est comment était cuit, ça m'a fait chier. Et je suis content de ne pas conduire.
Mais la vie des automobilistes a changé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les jeunes chanteurs aujourd'hui, ils conduisent plus, ils n'ont même plus le permis.
Non, puis quand tu vois les bagnoles, regarde la gueule qu'elles ont. Regarde ça, quand celle-là, ça va. Non, mais t'as vu la gueule.
Autrefois, dans les années 60, par exemple, se tuer en voiture, c'était une mort héroïque. Aujourd'hui, c'est la mort la plus bête du monde.
Héroïque, m'en tape. Hein. Moi, se tuer en voiture, c'est un manque de bol. Hein.
Oui, mais on voit bien tous ceux qui se sont tués en voiture, comme James Dean, beaucoup d'autres à l'époque.
Ah ouais?
Il y avait un côté héros. Aujourd'hui, on se dirait qu'il est idiot.
À part James Dean, il y avait qui? En voiture. Si. Facel Vega.
Oui, Albert Camus.
Fernand Reynaud.
Oui. Le... boulevard de Montparnasse est toujours bloqué par la police. Il y a une voiture juste devant nous qui ferme l'accès au boulevard. On se retrouve avec Christophe après les infos.
Frédéric Taddeï en balade avec Christophe sur Europe 1. Europe 1 en balade avec Christophe. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Christophe. Christophe qui sort un très bel album de duo avec Raphaël, avec Eddie Mitchell, avec Étienne Dao, avec Camille, avec Sébastien Tellier. Un album dans lequel il a revisité musicalement certains de ses plus grands succès. Mais c'est une balade un peu particulière puisqu'on est coincé sur le boulevard de Montparnasse, oui, autour de chez Christophe. Tout a été bloqué par la police, il y a des manifestations autour, donc il n'y a plus de voiture.
C'est une différence. De
on devait aller chez votre couturière, on ne peut pas y aller.
Bah, non, puis le petit café égyptien où je bois mon thé à la menthe.
Alors j'étais content de rencontrer votre couturière parce que vous créez vos vêtements comme vous créez vos chansons. Hein. C'est ouais, une sorte c'est de la haute couture toujours.
Bah, dans ma tête, j'avais des, quand j'étais jeune, j'avais des, comme je n'ai pas la taille mannequin, je me disais, bon... Le prêt-à-porter, c'est pas pour moi. C'était des vestes que d'abord, j'aimais pas. Et très, très tôt, j'allais chez Renoma, je me souviens, et je choisissais des tissus et je voulais pas de la coupe Renoma. J'ai dit, tu me changes ça, tu fais ça, tiens. Et donc, il me raccourcissait la veste un peu. Voilà. Et au fil du temps, bon, c'est peut-être parce que ma mère était couturière et que j'en ai vu des épingles par terre et des épaulés et des choses comme ça. Et des étoffes et des choses, voilà, des patchworks d'étoffes. Et c'est comme ça que j'ai construit mes premières marionnettes, grâce à ce que je faisais, la couture, je faisais la petite robe.
D'où la chanson, les marionnettes.
Ouais, voilà.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter.
Et vos bottes
Les bottes, c'est pareil, j'ai fait.
C'est vous qui les avez faites, celles-ci.
Ouais, je crée, ouais, ouais.
Donc bottes noires, intérieur rose avec une.
Le zip à l'extérieur.
Fermeture éclair à l'extérieur.
Moi, pour ce que je me suis créé comme ligne, je pense que c'est la ligne parfaite pour un mec comme moi, mais bon, malheureusement. Je n'ai pas ouvert de petite entreprise, donc je ne travaille pas pour les autres, parce que je ne peux pas tout faire, on en parlait, mais bon, je sais que parfois, Juliette Armanet m'a dit que tu pourrais me faire une veste. Raphaël m'a dit que tu pourrais me faire une paire de bottes. Voilà, je crée de temps en temps pour les vrais copains, donc je suis en train de créer une veste pour Juliette et une paire de bottes.
Pour Raphaël.
Raphaël, voilà, on va.
Qui chante également avec vous sur cet album. Vous avez une célèbre moustache blonde, Christophe.
Ouais, blonde,
oui. Ouais. Ben oui, elle est toujours blonde.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, en tout cas, c'est parce qu'il y a du soleil, peut-être.
Ah ouais, ouais. Ouais.
Et vous êtes revenu avec la moustache dans les années 70, c'était l'influence des Beatles ?
Non, non, pas du tout. Oh, non.
Ah, est-ce qu'ils se sont laissés pousser la moustache ?
Non, mais les fringues des autres ne m'intéressaient pas du tout. Mais mes fringues étaient dans ma tête.
Et les moustaches non plus.
J'ai réalisé, non. Non, ça, c'est juste une photo. Au bras, comme ça, sur la portière d'une Lamborghini Murat, où j'ai la tête dehors, la tête blond, et j'avais un bic, un feutre noir, et j'ai dessiné des petites moustaches noires, comme ça, et je me suis dit, je vais me laisser pousser la moustache. Et depuis ce jour-là, elle m'a jamais quitté. Dingue, hein ? Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais les cheveux, blond, parce que je me suis toujours décoloré, parce que j'aimais bien, et je me teignais la moustache en noir. D'où la pochette de, je ne sais plus...
Le beau bizarre, non ?
Non, non, non. Non, une pochette, mais vraiment... Oh, mon amour, je crois.
Ah oui ?
Ouais. Ah, moi, ici, j'ai fait un échange de guitare.
Où ça ?
Sur ce banc-là.
Là, sur le banc. Toujours des bancs.
Ah ouais.
Sur le banc devant la closerie.
Ah ouais, sur ce banc-là, ouais.
Avec qui ?
Un mec qui avait une guitare. Hummingbird, 68. Et moi, j'avais une guitare... canadienne, il la voulait, on a dealé.
Venez, on va aller par là, on va aller se mettre à une table dehors, on va profiter
on va se mettre
de.
À une table.
Voilà. Puisqu'on ne peut plus rouler.
On ne peut plus avancer.
Alors autant nous installer.
Ah, mais là on est bien. Ouais.
Il y a un petit vent.
On est bien défavorisé là.
Ouais. Il y a un petit vent.
Tiens, il y a un petit banc là.
Ouais.
Et mais c'est toujours les bancs. Les bancs publics. C'est pour ça que. Là, c'est peut-être Brassens. C'est Brassens qui m'a.
Tu vous as donné le goût des bancs publics ?
Bah ouais, parce que j'aimais bien la résonance du mon banc dans sa bouche. C'était une de mes idoles.
Ah oui ?
Ouais, idole sur ouais. Alors ça, c'est là où j'achète mon Magnum blanc, la nuit, là.
Ici, le Speed Market,
ouais, j'achète, ouais.
C'est des glaces.
Ouais, le Magnum, oui, bah oui.
Non, mais ça aurait pu être du champagne.
Ah oui, ça aurait pu être du vin blanc.
Oui, aussi.
Ouais, ouais, ah non, je champagne. Champagne, j'aime pas. Je préfère le Jack Daniel. Ou le thé à la menthe.
On se retrouve dans un instant sur le boulevard Montparnasse. On se cherche une table. Ou à défaut, un banc.
Frédéric Taddeï, en balade avec Christophe sur Europe 1.
C'est attablé, mais toujours dans le quartier de Montparnasse, que le chanteur Christophe continue de se remémorer des souvenirs avec Frédéric Taddeï.
On a atterri avec Christophe à l'apéro, un café très joyeux du boulevard de Montparnasse. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes attablés.
Ouais, c'est le... il y a beaucoup de jeunes ici. Hein, dans... Tous les cafés ici sont en face. Ici. L'apéro, c'est l'endroit où ça bouge jusqu'à 2 du mat. Là. On est bien là.
On est très bien.
Ouais, je crois que c'est bien. La première fois que je m'assois. Parce que malheureusement, quand je sors, c'est fermé. Quoi.
Ben oui. Ouais. Même votre quartier, en fait, vous ne le connaissez pas si bien que ça. Vous le connaissez que la nuit.
Ah, je ne connais pas mon quartier, non. J'ai jamais connu mes quartiers. Hein. Oh non. Ma banlieue, oui, parce que j'allais à l'école communale, il y avait l'école des filles en face. C'était la rue de l'avenue de la République, la grande rue. Voilà, je faisais. Ouais.
Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé à Paris?
Ouais, je suis venu à Paris, j'avais 15 ans, à Saint-Germain-des-Prés. Et je traînais à Saint-Michel et je faisais à la Manche, parfois, deux fois. La deuxième fois, les flics de Saint-Sulpice sont venus m'attraper.
Vous jouiez de la guitare?
Ouais, je jouais du blues, j'avais 15 ans. Ils sont venus m'embêter. Ils avaient que ça à faire, de venir embêter un mec. À l'époque, c'était déjà un peu comme ça, quoi.
Ça rapportait bien à l'époque de jouer de la guitare
Je ne peux pas dire que j'ai fait des fortunes, mais je faisais un petit billet de 10 balles ou un truc comme ça. Hein. Ouais.
Voilà nos boissons, merci beaucoup. C'est pour moi. Merci.
Moi je t'invite. Hein.
Ma limonade.
C'est comme je dois.
8h40, monsieur.
Hey, on est bien, là?
On est très bien. Putain, vous êtes devenu aujourd'hui l'idole de pas mal de jeunes musiciens, mais vous, c'est qui, vos idoles?
Aujourd'hui, j'en ai pas mal. Alors, c'est vrai que, bon, il y a eu Elvis, bien sûr. Il y a Lou Reed. Infiniment, Lou Reed. Tout le temps. Bah, après, il y a les gens que j'aime, comme Nick Cave, comme les gens que j'ai... les jeunes que je peux découvrir... Je suis un chercheur, donc j'écoute beaucoup aussi dans les Français, quoi. Il y a un petit mec, là, que j'ai découvert l'autre jour, qui s'appelle Hervé, qui a, je sais pas, 20 ans, qui fait du sport, qui fait du foot et tout ça. Bon, ben, le mec, on sent que le mec, il est... On a un point de rencontre, c'est le feeling, le blues, quoi. Bon, ça, c'est bien, voilà, des trucs comme ça.
Non, mais je parlais de vraies idoles. Vous parliez de Chet Baker tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a vraiment compté pour vous.
Ah ouais, oui, non, mais... Moi, des idoles, j'en ai pas qu'une. Hein. Je peux pas m'arrêter à une. Hein.
Ben non, je sais.
Ouais, voilà. Donc, Chet Baker, bien sûr. Callas, bien sûr. Philip Glass, qui me donne envie de faire du piano l'après-midi chez moi. Quoi. Alors que normalement, je m'entraîne au piano que sur scène devant le public. Il n'y a que là que je travaille normalement. Et qui j'aime, Daft Punk, j'ai aimé beaucoup aussi Daft Punk. C'est important pour moi.
Pierre Molinier, j'ai l'impression que ça a été important pour vous.
Oui, Pierre Molinier, bien sûr, dans la peinture.
Ses photomontages.
Et Clovis Trouille, beaucoup. Hein. Et alors, puisqu'on va là, on peut parler de Daniel Filipacchi aussi.
Oui.
Si un mec que j'aime sur cette terre, c'est bien lui. Quoi. Je suis fier d'avoir vécu tous ces moments qu'il m'a donné. Quoi. Ah, ouais. Ce merveilleux générique à la fin dans l'album de 2009, Aimer ce que nous sommes. Qui s'appelle Les Voyageurs du Train, quand c'est lui qui raconte tout le générique avec sa voix, ça fait quand même le frisson, quoi. À moins d'être sourd.
Pendant très longtemps, vous n'avez pas fait de scène, ou presque pas.
Ah oui,
vous avez fait un Olympia en 75,
c'est vrai, ouais,
et vous avez attendu 27 ou 28 ans pour remonter sur scène.
À cause du son. Et un peu à cause du son, et parce que, en fait, je crois qu'à l'époque, j'étais vraiment un traqueur, et je me sentais nul sur scène. Je me sentais pas, moi. Il a fallu effectivement que j'attende de voir David Bowie en 98 à l'Olympia. Je prenne une vraie claque dans la gueule, bien sûr. Bowie fait partie des gens que j'aime, grâce au son. Et là, quand j'ai vu David Bowie, j'étais dans les là-haut, dans le balcon, là. Et je regardais et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a comme pédale? Et donc, je suis descendu. J'ai fait comme des gens. Moi, qui ne voulais pas être dans la foule, je suis costron, hein. J'ai avancé dans la foule et j'ai été voir un peu les pédales qu'il y avait. J'ai pris des notes, comme les pédales de Prince, tout ça. Et je me suis dit, le mec qui m'avait demandé en 95, Laurent Castagné, de faire des concerts, je l'ai recherché, je lui ai dit, voilà, je veux faire des concerts. Et on est parti de là.
Et depuis, vous avez fait la Philharmonie, oui. Playel.
On ne s'est jamais quitté. Un mec qui m'a jamais ennuyé. J'essaie de ne pas dire des gros mots, parce que je trouve qu'il y en a trop des gros mots qui se disent. Alors j'aime la différence, alors j'essaye de parler correctement.
On va écouter une dernière chanson de ce nouvel album, C'est Petite Fille du Soleil, avec la chanteuse Camille.
Ah bah oui, Camille, j'aurais pu en parler, c'est vrai. Mais c'est parce que je ne suis pas encore bien réveillé, quoi. Mais bah, Camille, c'est vrai que je l'aime depuis que j'ai écouté le sac des filles.
Elle a fait une très belle reprise de Que je t'aime de Johnny Hallyday.
Ah ouais, elle a fait une très très belle reprise. Je n'ai jamais raté un seul concert de Camille. Et puis maintenant, elle répond oui quand je me demande de faire un duo. Ce qui est, à mon avis, rare parce que, en fait, je ne la connais toujours pas très bien parce qu'elle n'est pas facile à. C'est un peu un louride woman, non?
Petite fille du soleil, le matin va venir. Je dois partir. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans.
Thank you. C'était Christophe et Camille chantant Petite fille du soleil, un extrait du nouvel album de Christophe.
Christophe a sorti un nouvel album, alors ce dimanche, jusqu'à midi et demi, Frédéric Taddeï a décidé de se balader avec le chanteur dans les rues de Paris.
On est toujours avec Christophe à la terrasse de l'apéro, boulevard Montparnasse. Quelques voitures qui passent, peut-être que les manifestations ont cessé. Et nous sommes toujours là. Qu'est-ce que vous allez faire cet été, Christophe ?
J'ai un concert sur l'île de Ré. Ça, je suis assez content là.
À Jazz au Phare, au festival de jazz.
Ah ouais ?
Oui, je vous ai vu programmer, je me suis dit, tiens, Christophe dans un festival de jazz.
Ouais, il me demande de venir souvent. Moi, j'ai fait Vienne, j'ai fait tout ça, hein, avec Eric Truffaz. Hein. Je chantais les mots bleus avec Truffaz qui jouait la trompette.
Oui, il y a une chanson où on vous entend sur Arkhangelsk.
Ouais, ouais, son album. Bien sûr, ouais, ouais. Mais en fait, je ne suis pas du tout un chanteur de jazz, mais j'ai beaucoup traîné avec des. Moi, j'ai quand même fait des sessions avec Lee Morgan, qui était le mec de.
Formidable trompettiste.
Ouais, ouais. Au Kentucky, à la Contrescarpe, hein, quand j'avais 14-15 ans. Et je faisais du boogie, mais en tapant qu'une seule note. Non, c'est bien. Non, j'ai vécu des bons moments, faut pas. C'est tout. Mais il fallait me laisser dans ma bulle. J'avais pas envie qu'on me fasse chier. Et j'avais pas envie de faire chier les autres non plus. Parce que ça sert à rien, c'est de la merde. Hein. Ah non, j'ai pas de gros mots, j'ai dit.
C'est le 5 août, hein, je crois que vous serez.
5 août, et après le 5 août. Je reprends la route, bien sûr, avec Doudou, qui comment. Malheureusement, je ne conduis plus. Hein,
donc, et vous allez faire du bateau quand même.
Et après, je vais. J'emmène. J'ai une petite camionnette qui arrive avec mon matos que j'ai là-haut, avec une partie du matos. Et dans le petit voilier que je loue, j'installe le matos et j'attaque la prochaine musique de film de Bruno Dumont. Que je fais, puisque j'ai fait.
Vous faites toutes les musiques de film de Bruno Dumont.
J'ai fait Jeanne, là. Ouais. Et j'ai même fait exceptionnellement l'acteur. Parce qu'il m'a attrapé en traître. Et donc, j'ai fait un peu l'acteur. Mais de faire l'acteur avec Bruno Dumont, pour Bruno Dumont, quand il y a Lucchini qui joue, et une petite comme Jeanne, c'est pas dégueu. Et donc, je me renouvelle dans le prochain film. J'ai fait la musique du film. Il m'a dit, tu me fais un rôle dedans ? J'ai fait, si, il est tout petit, oui. Il est coquin, tu vois ? Il m'a dit, oui. J'ai dit, il a un petit rôle, oui. En fait, j'ai fait mes débuts avec lui.
On vous voyait aussi dans Quand j'étais chanteur, le film de Xavier Giannoli. Vous disiez rien.
Non.
On vous voyait vous remaquiller.
Non, c'est ça, oui. Parce qu'en fait, Xavier, je l'ai fait pour lui. Parce que je l'ai connu, il avait 5 ans quand il venait voir les 35 mm chez moi. Et donc, quand il m'a demandé, j'ai pas pu lui refuser. Je lui ai dit à condition que quand je viens, ça aille très très vite. Parce que j'ai pas un durant. Hein. Et par contre, je ne parle pas. Parce qu'il avait, je devais parler. Je lui ai dit, je fais comme quand je suis dans ma truc, je me frotte les mains avec une lingette pour me décontracter les mains en m'observant dans la glace.
Mais vous qui aimez tellement le cinéma, étant donné vos horaires, vous y allez quand ? Jamais ?
J'y vais plus. J'y vais plus avec beaucoup de regrets. C'est qu'il n'y a même pas une salle de cinéma ouverte jusqu'à 4 heures du matin. Quoi.
Ouais.
C'est quand même un scandale. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. Quoi. Il y a quand même, je ne suis pas le seul mec de la nuit. Il y a plein de mecs qui aimeraient aller voir le film qui a eu la palme, le film coréen, qui aimeraient aller se voir à 3 du mat, non ? Pas déconner. Vive la France. Hein. Non, moi, c'est pas vrai. Non, on s'ennuie un peu, là. Ça va pas. Quoi, hein, mais bon, j'ai quand même une projection sur mon mur de 2,50 m. Et je me suis fait La Vérité avec Brigitte Bardot, le film de Clouseau, avec un immense, avec un plaisir dingue.
On dit que c'est le meilleur film de Brigitte Bardot.
Ah ouais, ah, moi je dis pas ça parce que j'ai horreur de dire c'est le meilleur.
On dit.
Ah
que...
oui. Ah oui, et puis moi j'aime pas. Moi ce que les autres disent, je m'en tape. Hein. Ce qui compte, c'est ce que moi je ressens, bien sûr. Ça ne veut rien dire de dire on dit.
Merci Christophe de nous avoir emmenés en balade autour de chez vous, puisqu'on n'a pas pu quitter le quartier.
Ouais. D'ailleurs, je vois une voiture de police qui arrive, on peut peut-être nous passer des menottes.
Non, je crois qu'ils ont d'autres soucis avec les manifestations. Je rappelle que votre nouvel album est un album de duo qui s'intitule Christophe, etc. Et que vous serez au Festival de Jazz de l'île de Ré, Jazz au Phare, qui se tient du 3 au 7 août. Vous y serez le 5 août à 22h.
C'est le seul concert que j'ai pris de l'été.
Votre seul concert de l'été.
Ouais, ouais. Moi, je travaille pas si je travaille l'été, mais la nuit dans un bateau, quoi. Bah, je change pas mes habitudes, hein.
Alors, bonne traversée, Christophe. Bonnes vacances.
Oui, oui.
Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.